Nous abordons la dernière vidéo pédagogique de ce MOOC et nous abordons la question de la place du droit français des contrats, c'est-à-dire la place du droit français après la réforme dans le monde, la place du droit français par rapport aux autres droits. Et je suis pour cela avec Laure Lavorel, bonjour Laure.
Bonjour Renaud.
Que nous avons déjà croisée dans le MOOC, qui est directrice juridique d'une société internationale qui intervient dans le domaine du numérique, des nouvelles technologies, et qui est particulièrement bien placée, qui est également qui était jusqu'à récemment juge au tribunal de commerce de Paris dans la chambre internationale, donc qui est à tous ces égards particulièrement bien placée pour réfléchir avec nous à ces questions donc de concurrence, de compétitivité des droits. Première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que le droit français s'applique toujours ou est-ce qu'on peut l'écarter au profit d'autres droits?
Alors, entre commerçants, dans les contrats qui sont conclus pour les affaires, le choix du droit est libre et le choix de la juridiction aussi. Et donc, on peut appliquer le droit français en France, mais on peut appliquer le droit allemand et être jugé par un juge américain. Il y a une grande liberté.
D'accord, oui, parce que nous avons cette distinction entre droit applicable et juge compétent. Et alors, le droit français, est-ce que vous pensez qu'avec ces apports qui ont été faits, cette modernisation, cette dynamisation, cette clarification qu'opère la réforme issue de l'ordonnance donc du 10 février 2016, est-ce que vous pensez qu'il va être mieux placé par rapport à ses concurrents qui sont d'ailleurs le droit allemand?
Le droit allemand est un bon concurrent, le droit anglais, le droit américain lorsque vous êtes dans des entreprises internationales. Alors, mieux placé, c'est un peu difficile encore parce que la pratique n'est pas là. Ce qui est certain, c'est que ce droit des contrats, aujourd'hui, selon l'ordonnance, a consacré beaucoup de questions qui étaient déjà traitées par la jurisprudence, ce qui peut donner, vu de l'étranger, plus de visibilité.
D'accord. Donc on peut espérer que notre droit va être plus facilement choisi dans les contextes internationaux et qu'il va du coup gagner en influence.
Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que comme vous le disiez, on a tendance à choisir le juge plus que le droit applicable, l'un étant indépendant de l'autre, mais les deux allant beaucoup ensemble. Ici à Paris, on voit, et je l'ai vu lorsque vous l'avez mentionné, je siégeais à la Chambre internationale au tribunal de commerce de Paris, nous avons traité des affaires qui étaient soumises à des droits étrangers. Il n'empêche qu'en général, le juge d'un pays travaille dans le droit de son propre pays.
D'accord. Alors, une question qu'on connaît parfois peu, c'est le fait qu'il y a des classements des droits. Il y a des classements des droits, c'est notamment le rapport Doing Business. Et chaque année, les droits des différents pays font l'objet d'un classement en fonction de leur efficacité, de la sécurité qu'ils apportent. Et le droit français a été, suivant les années, plus ou moins bien classé. Alors déjà, je me tourne vers vous, Laure, est-ce que ces classements, est-ce qu'en pratique, vous les utilisez?
Alors, nous ne les utilisons pas, mais ils sont assez à la mode aux États-Unis. Je crois que ces classements doivent être pris au sérieux, même si nous avons tendance à considérer que les méthodes d'évaluation ne sont pas forcément celles que nous aurions retenues. Voilà, donc il faut être assez prudent avec ces classements, mais on ne peut les ignorer.
D'accord. On peut espérer qu'avec les différentes innovations apportées par l'ordonnance, le droit français va gagner des places dans ces différents rapports.
Alors, il a beaucoup été dit, je pense que c'est plus dit que vrai, que le droit des contrats nouvelle forme avait incorporé des principes du droit anglo-saxon. Bon, je ne suis pas certaine, mais en tout cas, le fait de le dire est vu positivement de l'étranger, puisque c'est une forme d'hybridation un peu de notre code civil. Et si ça peut convaincre des anglo-saxons que c'est un droit à utiliser, il faut le prendre.
Alors c'est vrai qu'on a un droit, on a eu l'occasion de le voir, qui affiche à la fois la liberté contractuelle qu'on avait déjà, mais qui est maintenant à l'article 1102 du Code civil affirmé de manière claire. On a aussi, comme on l'a vu, une carte des solutions qui sont offertes aux créanciers insatisfaits. On favorise l'exécution forcée en nature de l'obligation. Donc on a un certain nombre de mécanismes qui devraient rendre notre droit plus attractif. Alors parfois il l'était déjà, mais on ne le savait pas. Il était déjà efficace, mais on ne le savait pas. Et bon, là, on l'affiche vraiment, la liberté contractuelle, ça n'est pas du tout un principe nouveau, mais on l'a mis vraiment au frontispice de notre droit des contrats. Donc on peut penser que, oui, notre droit va être et plus attractif, plus séduisant, notamment parce qu'il s'affiche comme tel.
Oui, et je suis d'accord avec vous, Bruno, et je crois aussi beaucoup que les efforts qui ont été faits dans la rédaction sur l'absence d'une formalisation papier est très important parce que, bon, autrefois, il y a très longtemps, on signait les contrats en se tapant dans la main. Et puis, avec l'avènement, pas de l'imprimerie, mais plus tardivement, des professions papier, notaire et autres, le contrat est devenu un document. Aujourd'hui, on sait très bien avec la digitalisation de l'économie que la formalisation d'un contrat peut se faire sous beaucoup de formes. Et l'email est encore une forme un peu papier, mais pourquoi ne pas signer un contrat à travers un SMS ou un Snapchat ou que sais-je ? Il est donc, je trouve, très intéressant de voir que la France, à travers cette ordonnance, prend la mesure des nouvelles technologies et conçoit qu'un contrat peut être conclu sans forme papier.
D'accord. Dernier point qu'on va évoquer. Alors, je ne voudrais pas que ce soit un point qui fâche. On peut se demander si on n'a pas mis trop le juge dans le contrat. Parce que si on regarde les textes tels qu'ils résultent de la réforme, on a l'impression que le rôle du juge est accentué. Alors c'est une impression qui tient à ce que on n'a pas forcément un pouvoir du juge qui a été augmenté, si ce n'est qu'avec la révision pour imprévision, par exemple, on nous dit que le juge peut mettre fin au contrat ou modifier le contrat lorsque son exécution devient excessivement onéreuse et que les conditions prévues par l'article 1195 qui a été vu dans une autre vidéo et même dans plusieurs autres vidéos sont remplies. Mais peut-être qu'on a finalement formalisé un rôle du juge qui existait déjà. Voilà, il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que le contrat finalement fait intervenir non pas deux parties, mais trois parties.
Et vous avez raison, Bruno. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des principales critiques qu'on fait aujourd'hui à cette réforme, qui est de dire que finalement, le juge ayant un pouvoir nouveau, soi-disant nouveau, vous l'avez souligné, de réinterpréter les contrats, on serait finalement dans une situation de ménage à trois, et avec deux parties et un juge au milieu. Donc, sans tomber dans les scènes de Feydeau, on peut imaginer qu'un ménage à trois fonctionne moins bien qu'un ménage à deux. La réalité, je ne sais pas, parce que nous n'avons aucun recul aujourd'hui, la réalité, c'est que le juge, parfois, bien qu'il était très respectueux de la volonté des parties, pouvait s'arroger une forme d'interprétation en utilisant des mécanismes divers et variés que nous offrait soit la loi, soit le code civil. Nous verrons bien. C'est vrai que c'est une inquiétude de beaucoup de praticiens. C'est une inquiétude parce que l'imprévision pour les entreprises, c'est ce qu'il y a de pire.
D'accord. L'imprévision qui tiendrait paradoxalement au fait qu'on a prévu un mécanisme de révision pour imprévision.
Voilà mais ça touche également des questions sur les règles comptables, parce que lorsque vous comptabilisez votre revenu, c'est parce que vous êtes certain que pendant un an, deux ans, trois ans, que sais-je, vous allez avoir une somme d'argent fixe conclue grâce à un contrat qui va rentrer dans vos comptes. Si vous introduisez un élément d'imprévisibilité, est-ce que, c'est une question que je pose, la comptabilité ne va pas être affectée ?
Oui, alors c'est vrai que contracter, c'est prévoir, mais il faut se rappeler aussi que sur notre mécanisme de révision pour imprévision, on peut l'écarter. Donc on peut écarter la possibilité que l'on vienne demander une renégociation ou qu'on aille jusque devant le juge pour obtenir cette renégociation. Donc finalement, c'est un droit, et ça sera peut-être nos mots pour terminer, et c'est avec vous que nous terminons cette dernière vidéo pédagogique du MOOC, on a quand même une réforme qui est une réforme de consécration de solutions qui était déjà celle du droit français, de consolidation, parfois de rupture, mais généralement une réforme qui tend à rendre notre droit plus dynamique, plus efficace. Laure, je vous remercie.
Merci.